Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du 19 décembre 2013, le dernier Canu Info des Fêtes des Lumières de Lyon, une fois que vous ne s'en soyez pas rendu compte, avec Jean-Pierre dans les studios, Robert à duplex et Michel qu'on attend, qui devrait finir par arriver, j'espère. Néanmoins, on va ouvrir ce Canu Info sur la rubrique internationale.
Je crois qu'il y a un petit problème technique. Il faudra
Monter
le téléphone. Je ne t'entends pas, Jean-Pierre.
Alors, est-ce qu'il y a du monde qui a bricolé un peu les choses? Moi, j'ai rien d'anormal. Toi, tu ne m'entends pas du tout?
Je ne t'entends pas.
Eh bien, ça va être compliqué. Eh bien, on va se relancer dans une pause musicale et voir trouver une solution à ce problème technique. Je vais donc vous caler une pause musicale le plus supplémentaire. rebonjour donc après cette pause musicale qui n'a pas suffi à rétablir la ligne téléphonique. Radio Canu a de temps en temps des problèmes, quelque chose a été bougé, je ne sais pas quoi. Je vais donc pour le moment assumer tout seul la partie internationale de ce Canu Info. On va discuter de plusieurs choses. On va parler forcément des mouvements sociaux. On va tout d'abord parler de Mandela quand même, puisque même si l'actualité n'est plus toute récente, c'était le 5-12 qu'il est décédé. Demain matin, par contre, ça, c'est de l'actualité très présente. Aura lieu cette commémoration un hommage qui lui sera rendu dans un stade de Soweto avec une centaine de dirigeants mondiaux, 91 chefs d'État, 5 personnalités et des premiers ministres, enfin beaucoup de monde. Ce sera pour l'occasion de Hollande d'opérer une grande réconciliation avec Sarkozy, puisque il l'emmène, non pas dans son avion, l'autre n'a pas voulu partager le voyage, mais ils se retrouveront là-bas. Une réconciliation qui, en matière de politique interne, va se faire donc sur le dos des nouveaux prétendants de l'UMP. Voilà, il y a 3 semaines, Hollande organisait un raout avec Chirac, cette fois c'est Sarkozy. Où cela va-t-il s'arrêter? La prochaine étape va sans doute le mener jusqu'à Giscard. Bref, Mandela là-dedans, Madiba, comme l'appelaient familièrement tous les Africains qu'il aimait beaucoup, les Sud-Africains, est donc décédé. C'est une surprise si on veut. Bon, l'événement est forcément émotionnellement marquant, mais depuis quelques mois, il aurait aussi bien pu décéder il y a 3 ou 6 mois. On savait que ça n'allait pas du tout. Pourquoi c'est si important? Parce que cet homme-là, finalement, si c'est peut-être l'être humain restant vivant qui était le plus admirable de la planète par la manière dont il avait mené sa lutte politique et dont il avait pu après même la gérer ses choix. 27 ans de prison à partir de condamné à perpétuité 64. Pour avoir réclamé des droits aux Noirs équivalents à ceux des Blancs, une prison qui ressemblait plutôt à un bagne. Pendant toute cette période, il a donc moralement très bien tenu le coup quand même, et sans doute il a beaucoup travaillé aussi, il s'est préparé à la suite. En 90, il est finalement libéré. Sous une pression mondiale importante, puisqu'il y a eu des concerts avec des centaines de milliers de personnes, c'était un leitmotiv dans le monde entier d'appeler à la libération de Mandela. Et alors, fulgurance un peu, en 94, 4 ans plus tard, après des élections, il se retrouve président de l'Afrique du Sud. Et évidemment, tout le peuple noir de l'Afrique du Sud ne saura jamais lui exprimer toute la reconnaissance qu'il a de cet homme qui est venu à bout de l'apartheid par son action. Il, contrairement à beaucoup d'autres, il n'a pas traîné indéfiniment au pouvoir, puisqu'en 99, à la fin de son mandat, il a souhaité ne pas le renouveler et a laissé la suite à d'autres, tout en gardant une autorité morale et même politique dans son pays. Mais là aussi, belle leçon que cet homme qui ne s'est pas accroché indéfiniment et désespérément au pouvoir. Voilà, il y a une semaine de deuil en Afrique du Sud, il y aura une semaine de manifestations diverses et avant qu'il soit mis en terre dans une certaine intimité dans son village natal. Mandela, on peut toujours se référer à lui et ça reste un guide pour l'action politique, pour les générations nouvelles comme même pour les anciennes. En tous les cas, on pourra montrer son histoire et sa statue aux enfants sans réticence. À part ça, que se passe-t-il dans le monde? Parce que la disparition de Mandela n'arrête pas l'actualité, bien entendu. Eh bien, en Thaïlande, donc les opposants continuent de se positionner dans les rues et finalement obtiennent quelque chose dont on n'est pas très sûr que ce soit effectivement quelque chose de bien progressiste et qui aboutisse à un résultat très positif, à savoir... La première ministre a fini, sous cette pression populaire, par annoncer la démission du Parlement, à un moment où 100 000 personnes étaient dans la rue. Quoi. Mais les manifestants, les chemises rouges, donc, demandent la chute du gouvernement. Du coup, tout cela ne calme pas le jeu, parce que les Thaïlandais opposants se sont bien rendus compte qu'entre la première ministre et puis son frère en exil, et un renouvellement du Parlement, ça ne règle pas forcément le problème dans le sens qui leur convient et qu'ils attendent. Voilà donc une situation à suivre avec le gouvernement. On espère une accalmie puisque ces élections vont prendre quelques semaines. L'autre élément chaud de l'actualité internationale, plus proche de nous, c'est l'Ukraine, avec des milliers et des dizaines, peut-être des centaines de milliers de manifestants dans la rue à Kiev. À l'heure qu'il est, la chose est peut-être en train de prendre tournure, puisque la police, qui jusque-là a un petit peu laissé faire, s'est positionnée autour de la mairie, qui est toujours occupée par des milliers de personnes. Alors il fait un froid tel là-bas, hein, on se gèle quoi. Et du coup, il n'y a pas ce soir énormément de manifestants, il y en a toujours quelques milliers. Il y a eu la police a mis hier pour protéger les bâtiments gouvernementaux des barricades de bus et de choses comme ça. Du coup, les manifestants ont fait des contre-barricades, et ce qui faisait que les choses étaient un petit peu bloquées dans le centre-ville. L'université est en grève parce qu'elle est bloquée par les étudiants. Sur le plan politique, on ne sait pas si d'ici demain la situation aura évolué dans la rue, mais sur le plan politique, Mme Ashton doit se rendre à Kiev demain. Donc elle va écouter les deux parties et peut-être faire des propositions. On n'est pas sûr que ça satisfasse tout le monde. D'autant plus que l'opposition, si elle est dans la rue, elle est aussi divisée parce qu'il y a trois partis politiques avec trois leaders qui sont tous les trois, autant les uns que les autres, opposés au gouvernement. Et puis, à côté... Si on peut dire de ces trois partis politiques, il y a en fait 11 et une révolte populaire qui se déroule, qui s'organise au-delà des partis politiques. Donc, situation qui est un petit peu la même qu'il y a une semaine, avec une amplification du mouvement. Alors, sur le plan international encore, de quoi faut-il parler ? Ben, il faut parler quand même de l'OMC, puisque... À Bali, on a fini par obtenir un accord à minima, que les attaques et les progressistes dénoncent comme étant un accord qui vise surtout à conforter la position des multinationales en leur offrant, à travers l'abaissement des droits de douane, 1 000 milliards de réduction de coûts en taxes et autres. 1 000 milliards de gagner pour les capitalistes des paradis fiscaux, 1 000 milliards de perdus pour la population qui a besoin de ces sommes d'argent pour vivre et développer des infrastructures dans tous les pays. Le bilan global est extrêmement négatif, faible, 10% du cycle de ce qui avait été évoqué au cycle de Doha a été abordé. Trois thèmes seulement, facilitation des échanges, agriculture, développement. Tout le reste a été laissé un petit peu de côté en attendant la prochaine réunion. Et puis, il faut dire un mot aussi, plus qu'un mot d'ailleurs, plusieurs de la RCA, République centrafricaine, ex-Ubangi-Chari, hein, 6 millions, à peu près 5-6 millions de population. Un pays qui est en pleine crise, vous me direz, c'est un peu la crise permanente, puisque après sa libération dans les années 60 de la colonisation, On a connu Bokassa comme dirigeant, Bokassa président, puis empereur, avec toutes les facéties qu'il a organisées, remplacé par Patassé, remplacé par Bozizé. Et en 2013, donc, un coup d'État nouveau. Et du coup, ben, dans la ville, il y a une certaine instabilité qui se traduit par un mouvement appelé CDK, mais qui est surtout des groupes de milices mafieuses, bandits, et qui font régner la terreur et à leur profit, bien sûr, dans la ville. Ça s'est fortement aggravé ces derniers temps. Les Français avaient bien 400 militaires pour maintenir l'aéroport en sécurité. On en a vite ajouté 200 et là, 1100 de plus devraient arriver. Ils ne sont pas tout seuls parce qu'il y a aussi 2500 militaires de l'Union africaine, des différents pays, Cameroun et autres, qui vont être portés à 6000 dans les jours à venir. Pourquoi faire ? Ben pour sécuriser la ville. Les villes, mais comment imaginer sécuriser avec quelques 6 ou 8 000 militaires un pays grand comme la France? C'est assez dérisoire. On peut penser qu'ils vont essayer de reprendre main dans Bangui. Ces derniers jours, il y a quand même eu 450 morts dans des affrontements. Et puis sécuriser aussi des voies de circulation vers les pays autour comme le Tchad, le Soudan. Mais ils ne pénétreront pas partout et c'est pas avec les quelques hélicoptères et même l'aviation qu'ils pourront maintenir ce pays au calme. On remarque en passant que, bien que la France-Afrique soit finie, la France continue de s'abroger un rôle de gendarme dans cette région. Alors peut-être comme au Mali, au profit des populations et à la demande des gouvernements, il n'empêche que dans les propos qui sont tenus à l'égard des pays, par exemple au Mali, cette exigence de faire les élections à un moment bien précis sur ordre du pouvoir parisien de Hollande laisse quand même un goût amer aux gens qui voudraient donner leur autonomie complète aux dirigeants de ces pays. Alors, situation effectivement compliquée puisque les dirigeants ne sont pas en mesure, ni avec les moyens, ni avec la volonté politique, d'assurer correctement la tâche qui devrait leur être dévolue de maintien de l'ordre, entre autres, dans le pays. Et puis, il faut dire aussi quelques mots de l'Italie avec Monsieur Renzi, Matteo, qui, maire de Florence, avait déjà fait parler de lui dans le courant de l'année. Un type assez jeune, 38 ans, qui a pris la tête du centre-gauche et qui envisage et espère reprendre la main sur tout le parti. On peut le qualifier d'un petit peu populiste sans sa démarche, mais c'est vrai qu'il a du charisme et et à défaut d'avoir un programme politique extrêmement structuré et avec des mesures très intéressantes, il a par contre l'art de se faire ovationner par les foules. Ceci dit, pour le moment, il dispute un peu le leadership de la démocratie chrétienne. Il se dispute le leadership avec l'État, le président du Conseil en exercice. Voilà, il y a un autre sujet qui a un côté européen, mais je pense que je vais plutôt le traiter en rubrique nationale après notre pause musicale. On va retenter un essai technique, mais je pense que je n'améliorerai pas les choses pour ce soir et que je continuerai à vous parler dans la rubrique nationale des différentes choses, en particulier des travailleurs détachés, ce scandale européen, pour lequel aujourd'hui il y avait une réunion des ministres de l'Union, des ministres du Travail de l'Union européenne, qui devait, sur la demande de la France en particulier, tenter d'améliorer les choses. Je vous propose une pause musicale. On va la faire avec San Severino qui interprète Boris Vian, un enregistrement relativement récent.
Mon oncle que l'infâme bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques. Sans jamais avoir rien appris, c'était un vrai génie. Question de travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences le soir. Quand il rentrait chez nous, il nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de cette qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m, y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement, puis il met son kawaii, puis il y va. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il avalait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. Oh, à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. À vrai dire, c'est plus un cerveau, c'est un peu comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je me suis même pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Et il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Et puis il prend sa R16, puis il y va, sans passer par une pute roumaine de 17 ans. Yeah! Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé de tous ses fils de pute, il n'est plus rien resté. Tonton devant le résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'asseya et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu comme on a mes consciences. En détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir sauvé la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Hasimbonangu manje la tina la pekona la pehleli kona
Hasimbonangu
manje la tina la pekona la pehleli kona.
La paix qu'on a, la wafé la qu'on a.
Mongolian Penge.
Hasim Bonanga.
Hasim Bonanga.
Utaji we chuchi.
La pe kuna. La wafe la kuna.
Neo Agat.
Aungiti yeiwena,
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 yeiwena
nawe.
Sofika nini lasi yako na lasi yako.
Aungiti yeiwena,
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 yeiwena
nawe.
Sofika nini lasi yako na lasi yako.
Vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. C'était l'hommage de Radio Canu à Mandela, bien sûr, avec cette chanson de Johnny Clegg, très connue, Azibanga Nanga, qu'il interprétait. Donc, deuxième partie de ce Canu Info, toujours avec Jean-Pierre. Robert en duplex, je vais essayer. Est-ce que tu m'entends ?
Oui, oui, oui. Ah, on a rétabli le contact.
Et
oui.
Moi, je t'entends. Donc, j'ai touché.
Mais c'est un peu faiblard, mais
on va essayer. Je vais essayer d'améliorer les choses. J'ai touché le bon bouton qui avait été déréglé, on va dire. Allez, rubrique nationale. Tu attaques peut-être.
Attends, oui, dis-moi.
Oui, ben, rubrique nationale, je disais. Je te laisse le choix du sujet, à moins que tu veuilles que j'ouvre un peu.
Mais peut-être continuer dans ce que tu avais amorcé, à savoir la discussion à Bruxelles sur les travailleurs détachés.
Oui, là il y a à dire.
Hein. Alors, il semble que ce soir, il y a, nous dit-on, un accord, mais l'accord, il est secret. Alors on n'en connaît pas les détails, mais il y a tout à redouter de ce contenu, compte tenu qu'il y avait... toute une équipe de pays, menée notamment par les Britanniques et les Irlandais, mais suivie par les Polonais, les Hongrois, les Tchéquistes de la République tchèque, et qui refusaient que soit instauré sorte de contrôle qui remette à plat les éléments de fonctionnement de cette directive européenne de 1996, obtenir qu'enfin il y ait la fin de ce scandale que constitue le fait que finalement les entreprises font ce qu'elles veulent dans le pays où elles vont et passent par-dessus les règles du pays existant. Alors qu'on sait qu'il y a à peu près 1 500 000 détachés, travailleurs détachés en Europe, dont 350 000 en France, mais seulement, par exemple, on estime, tout ça c'est des estimations, à 200 000, un peu plus de 200 000, seulement de ceux qui sont déclarés, c'est-à-dire que il y a donc 150 000, et, enfin pratiquement plus d'un tiers, qui sont dans des situations, donc forcément, comme on a souvent utilisé le terme, de sorte d'esclavagisme moderne, puisque finalement, on ne connaît pas leurs conditions de travail, conditions de salaire, conditions d'hygiène, conditions de sécurité, tout ça, et tout ce qui concerne notamment les couvertures sociales. Alors, les syndicats européens, effectivement, sont montés au créneau, et eux, ils relancent effectivement ce qui devrait être l'Europe, c'est-à-dire une harmonisation par le haut de la situation sociale de tous les travailleurs qui qui eh bien se promène à travers l'Europe, enfin se promène, qu'on promène à travers l'Europe. Sinon, disent les syndicats, on va tout droit vers l'Europe, sorte de cimetière social, c'est l'expression qu'ils reprennent.
Oui, on peut peut-être préciser un peu ce qu'il en était de cette directive de 96, parce que, bien sûr, on a fait l'Europe du pognon, mais on n'a pas fait l'Europe sociale ni fiscale, c'est bien connu, refrain. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire en l'occurrence que le SMIC n'est pas le même partout, que les cotisations sociales ne sont pas les mêmes partout. Comme les gens ont le droit de circuler et de travailler partout, il s'est mis en place, bien sûr, un business là pour minimiser les coûts du travail. Et il y a des gros malins qui en ont tout de suite profité. Et du coup, ben, l'Europe a aussi essayé de limiter un peu les exactions en mettant des règles en 96, des règles qui disaient que le salarié devait être payé au SMIC du pays où il travaillait, qu'il devait avoir les congés et les temps de repos du pays où il travaillait, mais que par contre, il pouvait n'avoir que les charges sociales du pays d'origine. Alors quand on pense que dans des pays comme la Slovénie, elles sont autour de 15%, et qu'en France, elles sont de 45%, on voit tout de suite l'astuce. Et par exemple, le premier transporteur de France, Norbert d'Entresange, quand vous verrez des camions, vous penserez à lui, il emploie de plus en plus, je crois que c'est 40% actuellement, des gens qui viennent d'un pays comme la Slovénie, et qui sont soi-disant embauchés, qui sont embauchés là-bas, et qui travaillent en France aux conditions de la Slovénie. Et ces petits malins trichent de tous les côtés, puisque le SMIC, par exemple, qui est imposé, il s'arrange pour mettre dans le salaire le SMIC de la Slovénie et les frais de déplacement. Comme ça, le type, ils sont à peu près en règle avec la France, et le type, lui, par contre, est largement floué, puisqu'il ne touche pas le SMIC français. Enfin, il y a toute une série de magouilles, sans compter ceux qui déclarent rien du tout, bien entendu. Et dans les récriminations, il y a celle du secteur du bâtiment, puisque 40% des gens qui travaillent dans le bâtiment, on l'a vu même pour des bâtiments nationaux, hein, des chantiers d'État, comme celui qu'il y a dans le Midi, sont des gens qui viennent de ces pays-là. Du coup, c'est pas qu'on est contre les travailleurs ou que les travailleurs français sont contre les travailleurs étrangers. Par contre, avoir une concurrence avec des gens qui sont payés trois fois moins cher et qui reviennent quatre fois ou cinq fois moins cher à l'employeur, il est évident que c'est une forme de mondialisation, là aussi, qui coulerait n'importe quelle boîte française ou allemande. Les Anglais, eux, comme ils sont toujours dans des systèmes un peu particuliers et où ils privilégient la spéculation, ça les gêne pas trop. En plus, ils sont moins proches, donc ils sont moins concernés. Les pays directement bénéficiaires, hein, genre Slovénie, Bulgarie, Roumanie, évidemment, veulent garder le système comme il est, puisqu'ils ont tout à y gagner. Voilà donc ce qu'il en est devenu de l'Europe des travailleurs détachés. Et les gouvernements européens souhaitaient surtout une chose, c'est qu'un accord, même si on sait bien qu'il ne sera pas juste, qu'il ne sera pas égal pour tous les travailleurs, mais qu'un accord soit trouvé ce soir pour ne pas récupérer ça sur le tapis la semaine prochaine au moment du Conseil européen. Voilà ce que je voulais dire de plus. Alors, il y a des règles aussi, comme 25% des activités d'une boîte qui fait ça doivent se dérouler dans le pays d'origine. Pensez bien que les gros malins, ils ont tous mis des boîtes à lettres en Slovénie ou en Roumanie, et ils n'ont aucune activité dans le pays. Ils n'ont même pas 1% d'activité en dehors d'envoyer les mails pour recruter les gens. Et ça, c'est des règles auxquelles ils dérogent et pour lesquelles il n'y a pas vraiment de sanctions, quoi. Et puis il y a aussi un dernier point, la sous-traitance qui se fait en cascade. C'est comme ça aussi qu'on masque les opérations. Et Bockel, le sénateur communiste du Nord, lui réclamait que la sous-traitance soit limitée à 3 en cascade. Ça va jusqu'à 12 dans le bâtiment. C'est hallucinant parce que quand il y a 12 sous-traitants, il y a 12 gugus qui prennent leur petite part du gâteau au passage entre celui qui bosse et celui qui paye la facture à la fin. C'est dire que c'est absolument, on est proche des conditions de travail de l'esclavage. Quoi. Mais ça, il n'y a pas de règle pour le moment, il n'y a pas de limitation. On peut sous-traiter en cascade à souhait.
Oui, il y a tout à redouter sur ce que Sapin a concédé ce soir à Bruxelles. On veut pas crier au pire, mais quand même. Il y avait une initiative qui venait même du sein, enfin qui incluait une partie du gouvernement, puisque les Verts ainsi que la gauche socialiste, mais avec d'autres, le Front de gauche, PC, également CGT, demandent la suspension de la directive de 96. C'était ça le mot d'ordre, suspension. La France devait demander la suspension si effectivement on ne rétablissait pas une certaine forme d'autorisation préalable et de contrôle dans ce cadre-là. Alors, on verra dans peu de minutes ce qu'il en est.
Voilà, autre sujet, on va les évoquer rapidement, mais quand même, les grèves de privilégiés. Alors, c'est tellement à la mode maintenant, depuis qu'il y a eu les pigeons, il y a eu les bonnets rouges, maintenant tout le monde s'y met. Évidemment, on ne se présente pas comme ça, mais les professions libérales menacent de se mettre en grève, les pauvres chéris se déclarent asphyxiés par les taxes, pensez donc. Le gouvernement a entrepris de faire un petit peu de justice sociale dans le domaine et d'augmenter de 40% le régime fiscal des libéraux. C'est un vrai scandale, ils vont mourir de faim. Et ils en prennent aussi au gouvernement qui viserait à faire rentrer leurs caisses de retraite dans des régimes spéciaux qu'ils ont développés dans le régime général. On l'a déjà fait pour pas mal de régimes spéciaux, mais là, pour eux, c'est inadmissible. Il faut dire qu'ils ont 21 milliards d'euros de trésors de guerre et ils voudraient surtout pas le voir partir vers des smicards pour payer les retraites. Autre privilégié qui manifeste avec virulence, ils étaient en grève aujourd'hui, c'est les profs des prépas. Ils ne touchent que 4100 à 4800 euros par mois et pour à peine 10 heures de boulot. En fait, la plupart n'en font pas 10, ils en font 6, 7, 8, voire 9. Et quand comme ça, ils ont le bonheur de pouvoir faire des heures sup, qui, je suppose, leur sont payées au prorata en plus de leur salaire. Alors, Payon a une idée qui n'est pas forcément inintéressante, c'est de ramener les choses un peu raisonnablement et d'économiser un peu sur ces sursalaires pour payer les ZEP en termes de justice sociale. Mais les profs des prépas qui préparent les élites de la nation des 50 ans à venir ne le voient pas de cet œil et, d'une manière très corporatiste, les agrégés, bien sûr, défendent leurs privilèges face à une tentative d'égalité à la fois des conditions de travail dans les lycées, puisqu'on ne voit pas pourquoi un jeune débutant avec ses diplômes commencerait à 1600 euros et que d'autres seraient avec des écarts pareils. Bref, ces gens-là vont vous faire pleurer dans les télévisions et dans les radios pour garder leurs privilèges. Voilà. Bon, après, on parlera des grèves comme PSA, où là, il y a moins de privilèges à défendre. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose ?
Non, pas sûr. Enfin, je voulais aborder le domaine social, la situation à Kemwon, qui intéresse forcément beaucoup de gens dans la région lyonnaise, mais au plan national. Et puis, c'est un cas, c'est encore un cas de figure international. On a appris que la CGT, qui avait un projet pour la relance de Kemwon, ce projet s'appelait Phoenix. Kemwon, on rappelle, c'est le pôle vinylique d'Arkema. Eh bien, finalement, la CGT renonce, retire son projet, parce que selon elle, le projet est vidé de son sens. Elle était prête à soutenir une sorte de montage d'intérêt, communauté d'intérêt, ça s'appelait, public-privé. Ça avait reçu, le projet CGT avait reçu le soutien de la région Rhône-Alpes, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec force de leur chef, c'est-à-dire Kéran, Vauzel, et puis même Gérard Collomb à Lyon s'était prononcé en faveur, soutenait ce projet. Mais voilà, par contre, à Paris, ça n'a pas du tout été la même attitude. Hérault et le gouvernement a freiné, n'a pas permis que la procédure soit bien clarifiée. Non seulement Hérault a laissé tomber, mais également Montebourg, qui de plus en plus apparaît bien comme le faux ministre du redressement industriel. Il participe pratiquement à la casse de l'industrie en France, en se taisant maintenant systématiquement sur les entreprises qui sont en difficulté. Donc normalement c'est jeudi que le tribunal de commerce de Lyon se prononce. Donc il y avait en piste pour l'instant, et puis le tribunal d'ailleurs était peut-être à même de rejeter tout. Il y avait le projet de la CGT, il y avait le projet évidemment d'un fonds américain, comme d'habitude, un fonds américain Open Gate Capital, et puis un industriel, dont je ne sais rien, un industriel Alain Krasny. Alors, on sait déjà comment Cameron s'était fait rouler par un industriel, un spéculateur suisse américain, qui avait donc mené l'entreprise à la faillite. Et ce qui est pour la CGT, donc quelque chose de une situation auquel elle ne veut plus cautionner, et elle a appelé ça carrément qu'elle ne participera pas au dîner de cons. Alors dîner de cons, bon, on sait, c'est une allusion à une célèbre pièce, un film très populaire que beaucoup de gens ont vu. Donc la CGT n'ira pas, et on s'aperçoit qu'une fois de plus, eh bien, le gouvernement Hérault et Montebourg rejettent tous les projets de type coopératif, souvent avec les syndicats forcément, puisque c'est la force vive des entreprises. On a vu comment ça s'est passé avec Mittal en Lorraine. On a vu comment ça s'est passé avec Petroplus dans la région du Havre. Et puis on voit bien dans le sud, du côté de Marseille, à Gennes-Ménos, comment c'est compliqué, comment ça freine du côté des pouvoirs publics pour que Fralib, enfin, démarre la Fralib, cette entreprise qui veut relancer l'activité autour du thé de l'éléphant, mais sur des bases écologiques et pas du tout dans la conception qu'avait Unilever. Unilever ne veut pas lâcher la prise, et le gouvernement ne fait rien vraiment pour que les choses à Fralib. Une lutte qui dure depuis 3 ans, et depuis 1 an et demi que le gouvernement socialiste est en place, et bien Fralib a fait que de tout petit pas vers cette coopérative, mais en fait, on peut considérer que rien n'est vraiment fait.
Et dans les modes d'action, là, j'ai vu qu'ils préconisaient carrément maintenant un appel au boycott des produits Unilever. Alors, il y a là-dedans Lepton, Homon, Fruits d'Or, Sun, Knorr, oui. Amora et compagnie. Quoi.
Oui, une trentaine de produits. Oui, il y a eu un appel au boycott, et notamment samedi 7, qui s'est donc samedi dernier, mais un boycott qui va sans doute se prolonger. Hein. C'est les gens, s'ils soutiennent le projet, eh bien, ils doivent continuer à boycotter.
Et puis, il faut dire quelques mots de PSA Aulnay, où il y a 800 personnes qui continuent d'aller au boulot tous les jours pour pointer et qui n'ont rien à faire, si ce n'est à regarder les d'autres gens démonter l'usine, emmener des, par petits morceaux des machines et autres. Ils sont sans solution, ils n'ont pas reçu leur lettre de licenciement et la direction est bien embêtée de les voir là. Du coup, ils ont même proposé de limiter les bus à une journée sur deux pour les amener, ce que, bien sûr, les salariés refusent puisqu'ils veulent une situation éclaircie. Quoi. Et Peugeot, donc, déménage cette usine plutôt l'après-midi puisque les équipes sont du matin, comme ça ils peuvent faire leur mauvais coup tranquillement. La fin de Peugeot qui, par ailleurs, sur les chaînes de télé, nous explique comment c'est beau, c'est bien en Chine, comment on fabrique des belles grosses voitures qui se vendent bien, mais sur le dos des travailleurs français qui ont constitué la boîte. Voilà, tu avais d'autres infos
Oui, c'est pour avoir une peut-être un peu d'optimisme et puis voir que bon, je reviens aux informations internationales, mais on veut faire effectivement dans l'internationalisme aussi. Et la bonne nouvelle que j'aurais dit tout à l'heure, si on avait pu établir la communication, c'est au Venezuela, à l'occasion de l'élection municipale, où le Parti Socialiste Unifié Vénézuélien, avec Maduro, le successeur de Chavez à la tête de l'État, eh bien, a gagné ces élections municipales, alors qu'on lui promettait la défaite et qu'il y avait, on peut dire, tout le bloc, y compris plus ou moins soutenu par les Américains, les Colombiens et puis tant d'autres qui avaient essayé d'organiser autour de l'opposition une défaite pour Maduro. Près de 50% contre 43% au plan national. Alors, Maduro essaye de faire des petites choses. Là, par exemple, il a obtenu de pouvoir attaquer les augmentations des prix, tout ça, et donc d'ouvrir plus aux gens qui n'ont pas les moyens en légiférant par décret. Finalement, ça lui a, semble-t-il, réussi.
Voilà, bon, il me reste quelques annonces culturelles à donner, mais si tu as encore un sujet à traiter en deux minutes, on peut.
Non, ça, municipal, on va rentrer dans une période pratiquement en France de calme plat. Alors évidemment, rien n'est réglé au niveau de l'attitude à avoir en ce qui concerne la constitution des listes, par exemple le Front de Gauche. Mais finalement, ils sont constitués pas mal, et que les situations comme celle de Paris peuvent très bien apparaître comme très très minoritaires dans le planning familial, le planning final qui interviendra au printemps.
Voilà. Alors, rubrique culturelle, ben évidemment pas mal de choses, puisque les fêtes des Lumières sont finies, donc les autres vont pouvoir reprendre leurs activités. On va dire André Bonhomme, je vous le rappelle, il est à la salle Sous le Caillou demain, à 20h30, avec 10 et 13 euros, un concert avec Laure Vanreux et Florent Geoffroy. Ce même mardi, si vous êtes amateur de la musique de Berlioz, il y a une projection du film Luciano Berio d'Olivier Mille. C'est le 10 décembre, 18h, salle Varès au Conservatoire de Musique. À découvrir. Donc, il y a aussi le 10 décembre, le même soir, la classe de direction du Conservatoire de Trento qui jouera des œuvres de Berlioz, dont on commémore je ne sais plus quoi, la mort, je crois, pour les... Où est mon papier ? Il y a quelque chose, mais je n'ai pas la date sous les yeux. Comme il y a beaucoup d'autres choses aussi, il y a Papy qui présente Papy Art, son calendrier rue de la Sérigraphie. 19h au lavoir public. Attention, il y en a que 310 exemplaires, ils sont numérotés et il y a un certain nombre de surprises pour la soirée. Et puis, comme c'est pas fini, Gérard Mémone à la Stray donne son concert demain soir, deux demi-concerts, on va dire, une formule avec un quartet et puis une formule avec Cohen autour de Soft Movies, le dernier opus qu'on vous avait présenté ici même en sa compagnie il y a quelques semaines. Jeudi 12, à tout bout de chance, c'est Céline Cossimon qui sera sur scène. Le lendemain, vendredi 13, ah tiens, ça va lui porter bonheur, c'est Xavier Lacouture, toujours à tout bout de chance. Et puis à la note bleue, bon, il faut aller un petit peu vers la route de Vienne, donc il y a Rageri, si vous êtes amateur de musique malgache, la note bleue, donc c'est je vous conseille de regarder sur internet pour vous y trouver, c'est Jacques Mayou, hein, c'est le lieu culturel de Jacques Mayou, et il organise plein de choses. D'ailleurs, le lendemain, il organise toujours à la note bleue le jeu du Nous. Et puis le samedi, ça, et le dimanche, donc, un cercle de calebasse à la note bleue. Si vous tapez note bleue sur Internet, vous trouverez toutes ces informations avec des détails. Il faut dire aussi quelques mots de l'hommage pour le 40e anniversaire de la mort de Rara. 40 guitares pour Victor Rara. C'est à la salle Victor Rara, ça s'imposait. Samedi 14 décembre à 19h, rue Jean Lezire à Vaux-en-Velin. C'est le centre social et culturel Jean et Joseph Perry qui organise cette soirée de musique. Et puis toujours musique, samedi et dimanche. Dimanche c'est l'après-midi, samedi c'est le soir. Les Clés à Molette donnent leur nouveau spectacle à Paul Garcin, la salle Paul Garcin, donc sur les pentes. Voilà, il vous reste à ne pas quitter l'antenne sur Radio Canu et vous allez retrouver toute une série d'émissions en direct jusqu'à minuit ce soir. On se quitte avec la voix de André Bonhomme qui interprète Les Prisonniers, encore un clin d'œil à Nelson Mandela. Bonsoir et à lundi prochain.
Le directeur assermenté, ils ont brisé les sortilèges de l'absence de liberté. Ils ont brisé les sortilèges de l'absence de liberté. Qu'attendait-il de ce manège de rébellion inusité? Voulait-il par ce florilège voir enfin les matons matés? Les prisonniers sont pris au piège.